Nos invités, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional EBRA. Citons ce matin la une de l'Alsace, stop ou encore pour le gouvernement. Jean-Michel Salvator, vous êtes journaliste chroniqueur pour le Parisien Week-end. Et Bruno Cotterès, politologue, chercheur au CEVIPOF et au CNRS, enseignant à Sciences Po. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, Elisabeth Borne sera-t-elle encore première ministre ce soir? Les députés décideront de son sort cet après-midi à 16h. Le point avec Valentine Leboeuf.
Celle qui concentre tous les espoirs de l'opposition est la motion de censure déposée par les députés centristes et indépendants du groupe Liotte. Pour être votée, elle doit obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, soit 287 voix. Liotte compte déjà 20 députés, auxquels s'ajoutent les votes de la gauche, soit 149 voix, et les 88 voix du RN. Il faudrait donc que la moitié du groupe LR vote cette motion de censure pour qu'elle obtienne la majorité absolue, soit 30 députés. Si certains jugent cette probabilité très faible, Jean-Luc Mélenchon, lui, y croit.
La décision qu'on peut quand même espérer dans le groupe gaulliste, ou en tout cas qui se réclame de cette histoire, c'est qu'à un moment donné, ils disent « Ya basta, on n'est pas pour ça », parce que les Républicains non plus ne sont pas favorables.
De son côté, Emmanuel Macron souhaite que la réforme aille au bout de son cheminement démocratique. Et Bruno Le Maire se projette déjà.
Lorsque cette réforme des retraites sera définitivement adoptée et appliquée, eh bien, les comptes de ce régime de retraite seront équilibrés en 2030, même s'il y a plus de retraités.
Si la motion de censure est votée, Elisabeth Borne devra présenter la démission de son gouvernement. Dans le cas contraire, la réforme des retraites sera définitivement adoptée.
Alors Nathalie Moret, est-ce qu'il y a un petit peu de suspense, sachant que jeudi soir, quand même, la Première ministre a dit, au fond, les députés vont pouvoir voter sur cette réforme des retraites via cette motion de censure. Elle l'a dit, ce vote d'aujourd'hui, ce sera ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la réforme. Est-ce qu'elle n'a pas donné des munitions à ceux qui seraient tentés de voter pour la motion de censure?
Un petit peu. Il faut quand même le reconnaître, le suspense est faible. Parce qu'il faudrait vraiment qu'une trentaine de députés LR sur les 60 votent la motion de censure. Ce n'est pas dans leur ADN. En même temps, ça va se faire à bulletin secret. C'est là où il y a un petit peu du suspense. Et ça se passe après le week-end, où tous les députés sont allés sur le terrain. Et c'est vrai que cette réforme reste impopulaire. Non seulement 9 actifs sur 10 la rejettent, mais en plus, 3 Français sur 4 sont favorables à un vote de la motion de censure. Donc on voit que c'est absolument colossal, y compris 20% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour. Donc on voit que le rejet de cette réforme des retraites est massif et c'est ce qui rend ce scrutin un peu incertain. Je dis bien un peu parce que globalement, ça devrait passer quand même. On voit mal un maximum de députés LR voter pour la démission du gouvernement.
Il n'empêche, Bruno Cotterès, Elisabeth Borne elle-même, visiblement, ne se fait guère d'illusions sur son avenir. Elle aurait dit jeudi, rapporte le journal Le Monde, j'assume d'être infusible.
Ah oui, c'est la vocation du premier ou de la première ministre sous la Ve République, normalement, d'être effectivement ce fameux fusible qui peut se faire griller ou qui peut se faire, au fond, déplacer si la situation le nécessite. On voit que là, effectivement, la première ministre ressort quand même pas mal fragilisée de l'ensemble de la séquence. Elle est fragilisée pour quelques raisons. La première raison, c'est qu'elle est en échec sur sa mission principale. Elle avait été nommée pour faire du consensus, des majorités de projets, avec une méthode Borne qui était beaucoup vantée au vu de son expérience avant d'être première ministre. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Elle est numéro 2 du classement des utilisations du 49-3 sous la Ve République, derrière Michel Rocard, très loin derrière, 28 pour Michel Rocard, 11 pour elle, mais ça fait quand même beaucoup en même pas un an. Deuxième raison, Elisabeth Borne n'a pas donné à travers toute cette séquence le sentiment, au fond, d'échapper à l'image qu'elle a dans l'opinion, c'est-à-dire quelqu'un qui est sérieux, qui est compétent, qui travaille les dossiers. Mais elle n'a toujours pas réglé la question de fond, qui est de donner le sentiment d'une profonde empathie avec le pays. Le pays ressent une sorte de divorce important entre ce que l'opinion ressent et ce que l'exécutif décide. Et pour le moment, on se retrouve presque à la case zéro, c'est-à-dire récemment, nous venons de publier au CEVIPOF notre baromètre annuel de la confiance politique. Sur plusieurs indicateurs de défiance politique, vous savez, on est revenu pratiquement au moment de la crise des Gilets jaunes. On n'est pas très éloigné de l'effondrement de confiance qu'on avait vu au moment de la crise des Gilets jaunes.
Jean-Michel Salvatore, Elisabeth Borne fragilisée, est-ce que ça veut dire que déjà, on a vu dans le reportage, certains déjà se projettent dans la presse, c'était en l'occurrence Bruno Le Maire. D'ailleurs, Bruno Le Maire, hier, qui a donné... Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, qui a fait la une du Parisien avec ce titre « Aucune violence ne doit être tolérée ». Pourtant, la violence, ça ne relève pas de l'économie. Comme si il sortait un petit peu de son, il commençait à sortir de son domaine ministériel, Bruno Le Maire, en se disant peut-être que d'autres postes pourraient s'ouvrir à moi.
Oui. Alors on verra. On sait que Emmanuel Macron n'aime pas gérer les choses dans l'urgence,
sous
la pression. Donc on verra, c'est lui seul sait ce qu'il fera, mais c'est vrai qu'a priori on le voit mal changer la première ministre, mais ça peut toujours arriver. D'abord parce qu'elle n'est pas là depuis très longtemps et qu'il n'y a pas grand monde sur le banc de touche. Quand on regarde un petit peu, on ne voit pas la personnalité qui pourrait poursuivre le quinquennat en faisant voter les lois de réforme que le président de la République a l'intention de faire voter. Donc il n'y a pas grand monde pour remplacer Elisabeth Borne, sauf à trouver quelqu'un un petit peu comme Jean Castex, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Donc on ne s'attend pas forcément à un changement de Premier ministre, d'autant qu'il y a un enjeu symbolique là-dedans, moi, je trouve, c'est que Mme Borne, elle est là depuis 10 mois. Elle n'a pas encore battu le record d'Edith Cresson qui était resté 10 mois et 18 jours. Et si le bilan de cette séquence, c'est que finalement, en France, une première ministre ne peut pas rester en fonction plus de 10 mois, je trouve que ça serait un gâchis supplémentaire.
Nathalie Moret, beaucoup y pensent néanmoins à la place qui pourrait être vacante à Matignon, même si, comme le disait Jean-Michel Salvatore, peut-être qu'Emmanuel Macron se dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnalités qui pourraient faire l'affaire à Matignon.
Mais qui pourrait faire l'affaire ? Parce que le vrai problème, c'est quoi ? C'est le chef du gouvernement ou c'est la majorité relative à l'Assemblée nationale ? Elisabeth Borne, la censure n'est pas votée, elle continue à son poste de Premier ministre comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait voter la loi immigration dans quelques semaines à l'Assemblée nationale ?
En fait, c'est ça qu'on touche du doigt.
Mais
on
ne
peut pas gouverner ce pays sans majorité.
Ça veut dire que aujourd'hui, elle a été mise en place. Elle avait dit « je ferai une majorité de projets, de temps en temps avec les LR, de temps en temps avec la gauche, en fonction des projets ». Ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, l'essentiel des textes, ça a été, effectivement, les mesures budgétaires qui sont passées avec un 49-3. Le premier texte vraiment sensible... 49-3. L'immigration, c'est un texte sensible. Comment le faire passer sans le 49-3 ? Donc on voit bien qu'on touche le fait qu'en France, ce n'est actuellement pas possible d'établir des compromis. À mon avis, c'est ça le problème, plus que le poste de Premier ministre. Je note que dans les manifestations, peu de gens demandent la tête d'Elisabeth Borne. Les gens en veulent à Emmanuel Macron, qui subit des slogans très difficiles, et demande le retrait de la réforme. C'est pas vraiment
Elisabeth Borne. Le rejet, c'est pas cristallisé sur la personnalité.
Non, c'est vraiment sur le projet et sur la personnalité du président de la République.
Alors, vous l'avez dit, Elisabeth Borne qui comptait sur le soutien en bloc des LR, sauf que les LR se sont divisés sur cette question des retraites. Et d'ailleurs, une question se pose, comment voteront-ils cet après-midi la motion de censure ? Élément de réponse avec Hugo Capelli et Alex Gouty.
Tous les regards étaient braqués sur eux ces derniers jours. Les Républicains avaient le sort de la réforme des retraites entre leurs mains. Mais la droite s'est divisée. À gauche, Éric Ciotti, favorable au texte. À droite, Aurélien Pradier, l'un des frondeurs qui ont contraint le gouvernement au 49-3. Comment ce parti en est arrivé là, alors qu'il porte la réforme des retraites depuis des années ?
L'âge de la retraite devra être porté à 64 ans.
Oui, nous devons aller progressivement vers la retraite à 65 ans.
Nous repousserons l'âge de la retraite à 65 ans.
Depuis la déroute de Valérie Pécresse à la présidentielle, il ne reste que 61 députés LR à l'Assemblée. La nouvelle génération d'élus s'oppose à l'ancienne. Dernier exemple en date, à quelques minutes d'intervalle, la consigne officielle autour de la motion de censure est loin d'être acceptée par tous.
Nous venons de décider en réunion de groupe que nous nous associerons à aucune motion de censure.
Toutes les hypothèses sont possibles pour chacun des députés, librement, parce que nous sommes des députés libres.
Je pense qu'on étudiera les motions d'où qu'elles viennent, on les regardera attentivement, et je pense qu'on n'aura aucun scrupule à voter une motion de censure.
Désormais, certains ténors réclament des décisions radicales pour que la droite se trouve une ligne directrice. Le parti est plus que jamais fracturé et preuve du malaise, ses deux principaux présidentiables, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, brillent par leur discrétion.
Et alors je vous propose justement, on a les détails, Aurélien Pradier a annoncé ce matin sur Europe 1, Aurélien Pradier, donc, qui était le chef de file des frondeurs chez LR, qu'il votera la motion de censure, mais uniquement celle qui est proposée par le groupe centriste du Liot. On écoute.
J'ai pris du temps pour y penser, pas le faire à la légère. Et oui, je voterai la motion de censure portée par Charles de Courson, la motion transpartisane. Je ne voterai pas la motion du Rassemblement national, c'est une évidence.
Et alors, Maxime Minot, député LR, lui, de l'Oise, a annoncé ce matin au 4V qu'il votera les deux motions de censure, celle de la Liot et celle du Rassemblement national. On l'écoute.
C'est une longue réflexion. Pour être honnête avec vous, j'ai passé le week-end à peser les pour et les contre et j'ai gardé cette seule boussole qui est le terrain. Donc, effectivement, je ne voterai pas la motion, mais les motions qui seront présentées cet après-midi.
Alors, Nathalie Moret, ça c'est le match dans le match. Vous avez interrogé, vous, un autre député du Rhône qui s'appelle Alexandre Vincendé. Et qu'a-t-il dit ? Un LR qui voterait la censure n'a plus vocation à siéger parmi nous. Là, c'est les Gaulois qui ne s'aiment pas, là, chez LR.
Et Alexandre Vincendé, dans l'article, dit « Je n'imagine même pas qu'il n'y ait pas de sanctions prises si cette ligne rouge est franchie. » Il faut rappeler quand même les choses, quoi. Le président du groupe... Olivier Marleix, oui, et le président du parti, Éric Ciotti, ont dit jeudi tout de suite après, nous ne voterons pas les motions de censure parce que nous sommes un parti de gouvernement, etc. Trois minutes après, Aurélien Pradier arrive à la salle des quatre colonnes, enfin c'était à côté, salle des pas perdus, et dit, moi je réserve ma réponse. Bon, finalement, il la votera. Comment vont-ils faire pour survivre au sein du même parti, au sein du même groupe politique, avec des idées aussi différentes ? Moi, c'est une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, à l'issue du vote, on assiste à une scission du groupe parlementaire ? C'est une possibilité. Franchement, c'est une possibilité. Et je le redis, le vote a lieu à bulletin secret. Donc actuellement, on est à une petite dizaine de députés LR qui votent la motion de censure. On n'est pas à l'abri à ce qu'il y en ait un peu plus et qu'il y a une vraie rupture au sein du groupe LR.
Bruno Cotterêts, c'est l'autre grande victime, vous diriez, les Républicains. On voit que les chefs, les barons des Républicains ne tiennent absolument pas leur troupe. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein, là, les Maxime Minot. Et en plus, ils vont sur les plateaux le claironner.
C'est assez fascinant. Au fond, les Républicains avaient le moyen de devenir, au contraire, l'acteur clé de toute cette séquence. Ils tenaient une sorte de balle de match incroyable, c'est-à-dire en partant de l'élection présidentielle complètement ratée, et de redevenir un acteur central, de faire basculer la majorité, pivot, d'avoir obligé le gouvernement à venir sur leur position à eux. Et même au passage, ils s'étaient offert le luxe d'avoir une tonalité qui sonnait sympathique aux oreilles de ceux qui aiment bien le gaullisme social, avec par exemple Aurélien Pradier ou d'autres qui disaient « la réforme du gouvernement, elle frappe les catégories les plus fragiles ». Et donc il y avait une sorte de balle de match absolument incroyable, un coup de billard à trois bandes, et puis finalement ils transforment ce coup de billard à trois bandes en effectivement quelque chose qui est difficile pour eux, pour plein de raisons. Il y a des raisons de court terme. On a beaucoup dit qu'en faisant pression sur les députés, l'exécutif avait irrité avec la menace d'une dissolution qui effectivement était quelque chose qui renvoyait une image assez négative. Mais il y a des raisons de long terme et ce sont les plus importantes. Dans les raisons de long terme, on peut identifier d'abord peut-être la question du leadership quand même du mouvement politique. Est-ce qu'entre les lignes, ça veut dire que Éric Ciotti n'a pas la capacité à tenir ses troupes? Mais peut-être, est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi...
Son image de chef a pâli avec cette séquence.
Peut-être une insatisfaction sur son leadership. En tout cas, on peut se poser la question. Des questions de ligne politique. On voit que les arguments qui sont présentés par ceux qui s'opposent à la réforme des retraites, ce sont souvent des arguments de fond. Ils disent, c'est une réforme. Oui, l'âge de 64 ans, ça va dans notre direction, mais pas comme ça. Pas à ce rythme-là, pas dans ces conditions-là. Donc des questions de fond. Et puis évidemment, en toile de fond, il y a des questions de ligne stratégique et des questions de positionnement stratégique vis-à-vis du mandat d'Emmanuel Macron et surtout vis-à-vis de l'échéance de 2027.
C'est vrai que Jean-Michel Salvatore, on a coutume, enfin l'ADN de la droite, on dit c'est l'ordre, là il y a le désordre suite à leur décision, c'est le travail, donc travailler plus, eux non, là c'est ne pas travailler plus, et c'est l'équilibre des comptes publics. On a l'impression qu'il n'y a plus du tout de ligne idéologique et que c'est un... Enfin, ça va être compliqué, vu l'état des Républicains, de reconquérir le pouvoir en 2027.
Ben oui, parce qu'ils ont une ligne qui est totalement illisible. Le 49-3, de leur point de vue, était plutôt une aubaine, puisque ça avait un effet masquant. On ne savait pas exactement ce que pesaient les ciotistes et les autres. Là, ça va être l'épreuve de vérité, c'est-à-dire qu'on va bien savoir ce que pèse Ciotti dans son groupe, et ce que pèsent les frondeurs, dont on ne comprend pas toujours très bien les motivations. Enfin, on voit bien certaines motivations personnelles, mais politiquement, il y a quelque chose d'assez populiste dans leurs arguments. Et de ce point de vue-là, le vote d'aujourd'hui va être très, très intéressant, parce qu'il va permettre de comprendre un petit peu ce que pèsent les uns et les autres. Et c'est vrai que ce n'est pas très bon pour les Républicains. Et là, d'une certaine façon, ils sont en train de faire exactement le même chemin que les socialistes il y a 5 ans.
Oui.
Je disais que ce flou-là est complètement instrumentalisé par le Rassemblement national, qui a dit
Alors justement, en cas de dissolution, le Rassemblement national ne présentera pas de candidat face aux LR qui voteront la motion de censure. Donc typiquement, Maxime Minot, qui vient de dire qu'il voterait la censure du RN... Ça veut dire que s'il se représente devant ses électeurs, au fond, le Rassemblement, il fait alliance avec le Rassemblement national.
En tous les cas, il n'aura pas de candidat RN en face de lui lors de la prochaine législative, ce qui n'est pas neutre dans son département. Le département de l'Oise est quand même un département qui vote beaucoup Rassemblement national. Pareil pour Fabien Di Filippo en Moselle, qui, lui, va voter la motion de censure et qui, donc, n'aura pas la prochaine fois un candidat RN. Donc, on ne peut pas non plus rayer d'un trait de plume cette déclaration de Jordan Bardella qui a été...
C'est pour ça que Maxime Minot, il dit qu'il votera la motion de censure RN. Est-ce qu'on peut y voir le début d'une alliance des droites LR-RN ?
Non, je ne suis pas sûre qu'on puisse y voir un début, mais on peut y voir la suite de l'effritement de la digue entre le Rassemblement national et les RN.
En tous les cas, Bruno Cotteret, c'est une main tendue du RN aux députés du Rassemblement national, de LR, en disant on peut se faire la courte échelle.
Clairement, ça fait partie d'éléments de langage qui, à un moment donné, sont introduits comme ça et qui instillent progressivement l'idée, non seulement qu'après tout, peut-être, ça serait possible, mais qui instillent l'idée que du côté du Rassemblement national, on continue cette tentative d'ouverture. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est la dimension territoriale. On voit que les députés LR, ils sont un peu revenus de l'enfer en 2022. Ils sont arrivés à se faire réélire députés Les Républicains après une présidentielle extrêmement, extrêmement difficile et dans un contexte où tout le monde était en train de dire « ce parti est définitivement terminé, c'est mort Les Républicains ». Donc peut-être aussi que cette dimension d'être arrivé à se faire élire dans un contexte si difficile fait que par rapport au parti et au, on va dire, le niveau national du parti, ils se sentent un peu en position de force en disant « ben nous, on y est arrivé à se faire élire dans ce contexte-là ». Et donc on compte et on connaît notre terrain et on sait ce dont on a besoin pour se faire réélire.
Jean-Michel Salvatore, et les barons, les présidentiables, comme on disait, les Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez, le grand absent, titré hier le journal du dimanche, ils ont été balayés, leur destin aura été balayé ou en politique, il ne faut jamais dire jamais
Ils ont tous des stratégies qui sont d'abord des stratégies personnelles et présidentielles. Wauquiez, par exemple, considère qu'il n'a pas intérêt à se mouiller tout de suite parce que évidemment, ils ont tous à l'esprit l'exemple de Macron qui finalement, en un an et demi, est passé de ministre parmi d'autres à président de la République. Et donc, on n'est plus du tout à l'époque où pour être candidat à la présidence et élu président de la République, c'était un travail de 20 ans, 30 ans. Il faut se souvenir que François Mitterrand, il s'y est repris à 3 fois pour être élu. Jacques Chirac, même chose. Là, on est dans une espèce de raccourcissement de temps et on se dit que finalement, une stratégie éclair peut fonctionner. Et c'est un petit peu l'idée qu'a Laurent Wauquiez. Il ne veut surtout pas s'abîmer dans cette bataille-là. Il ne veut pas non plus s'abîmer visiblement dans les élections européennes qui auront lieu l'année prochaine et qui sera un vrai clivage du monde politique entre les mondialistes et puis ceux qui sont plutôt tenants d'une politique plus nationale. Et lui s'imagine que sa campagne ne commencera qu'après, c'est-à-dire en 2026-2027. Bon, on verra si ce pari est gagnant ou perdant, surtout s'il y a une dissolution. Là, il sera un petit peu piégé. Bon, Xavier Bertrand, on ne voit pas très bien non plus, parce que c'est vrai qu'il est perçu comme plutôt spécialiste de ces questions-là, et il a un problème de sincérité quand il explique que la réforme est mauvaise.
Alors, il n'empêche, pour Emmanuel Macron, qui n'a pas de majorité et une première ministre à bout de souffle, comment rebondir, comment relancer son quinquennat? C'est Jordan Bardella qui disait « on est à un début de quinquennat et pourtant ça ressemble déjà à une fin de règne ». Donc comment le président peut-il rebondir? Élément de réponse avec Christelle Méral et Andrea Da Silva.
Comment relancer son quinquennat? Va-t-il se séparer de sa première ministre? Selon une parlementaire de la majorité, ses jours sont comptés. Il faudra tourner la page, la soupape Borne va être utilisée. Une proche du président ajoute « Son état d'esprit, c'est qu'après la motion de censure, il faudra relancer fort, sur le fond et au niveau du casting. » En clair, faire un remaniement, relancer les réformes. Selon un ancien ministre, il y a urgence, il le menace. « Si tu continues ainsi et que la crise s'aggrave, tu ne seras plus là pour inaugurer les Jeux Olympiques. » Le scénario du pire, pour inciter le président à réagir. Prochaine étape, s'adresser aux Français, mais quand? Le chef de l'État n'a pas encore tranché.
Nathalie Mouret, là, il faut faire quelque chose, une grande allocution, un grand plan. C'est compliqué, ça va être compliqué pour Emmanuel Macron de relancer son quinquennat.
Alors, le problème, ce n'est pas de parler, c'est de savoir quoi dire. Non, mais honnêtement, hein, c'est-à-dire que en Macronie, depuis quelques semaines, pendant toute cette séquence de réforme des retraites, il réfléchissait à que va être l'après ? Quel récit on va tisser ? Et pour eux, c'était vraiment cette réforme de retraite, c'est la fin du premier quinquennat, et ensuite on enchaîne sur le second, et on raconte quelque chose, on tisse un récit, c'est sur la souveraineté de la France, alors ça passe par l'éducation, par l'hôpital, par voilà. Tout ça était en train de se construire. Aujourd'hui, on voit bien que ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale et ce qui va se passer aujourd'hui rebat complètement les cartes. Donc oui, il va falloir que le président de la République s'exprime, mais encore une fois, que dire? Comment retracer un récit? Comment redonner des perspectives alors même que la confiance est rompue avec les Français? Donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc avant de savoir comment il va faire pour s'exprimer, il faut savoir comment il va replonger la France dans un futur qui va être plus positif, on va dire.
Bruno Cotterêts, on parle d'un risque de chiracisation, vous savez, cette malédiction du deuxième mandat synonyme d'immobilisme.
Et c'est sûr que le chef de l'État a le problème un peu classique du deuxième mandat. Pour le moment, on a du mal à voir, et c'est lié aussi à sa campagne présidentielle, qui était une campagne courte, où il n'y a pas eu beaucoup, au fond, de propositions. En tout cas, on a retenu surtout la réforme des retraites. Et il a le problème classique du deuxième mandat, qui est où trouver la nouvelle énergie, comment trouver un nouveau souffle. Pour ce deuxième mandat, on a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que la direction principale, le grand choix de politique publique de ce deuxième mandat, on ne voit pas très très clair. Le premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est on vient d'élire un très jeune président. Effectivement, c'est la première élection à laquelle il se présente. Et d'une certaine manière, ça se suffit presque à soi-même comme explication. Son énergie, son dynamisme, sa nouveauté. Là, on est dans le deuxième mandat. Il bénéficie plus de cette même perception. Et la campagne n'a pas permis d'établir clairement la grande direction d'action publique visée par le deuxième mandat. Donc il a effectivement ce problème. Et on voit que depuis son élection, on ne cesse de nous dire « le deuxième mandat va démarrer, ça va démarrer, ça va démarrer ». On repousse cette échéance. On va arriver dans pas longtemps à un an de second mandat. Effectivement, on voit que du côté de l'exécutif, il y a ce souhait d'enclencher un nouveau récit après la réforme des retraites. Le problème, c'est aussi que l'image de l'exécutif est une image qui, elle, est absolument figée. Emmanuel Macron continue de disposer d'un socle dans l'opinion qui le voit comme un réformateur courageux, et son attitude pour la réforme des retraites alimente cette image. Mais en face, il y a une opinion dominante qui est un chef de l'État qui, à la fois, est loin des préoccupations du peuple, gouverne de manière trop monarchique. Et de ce point de vue-là, pour le moment, il n'y a rien dans l'opinion qui bouge.
Et Jean-Michel Salvatore, est-ce qu'il risque pas y avoir un procès en amateurisme contre Emmanuel Macron? Parce qu'il avait juré jusqu'au matin même qu'il n'y aurait pas de 49-3. Finalement, un quart d'heure avant, hein, c'est ce qu'on racontait la semaine dernière, à 13h45, changement de pied 49-3. Libération titrée ce matin avec cette phrase sévère quand même de Laurent Berger, disant « ça n'est pas un échec, c'est un naufrage ». Il n'a pas perdu des plumes
Si, sans doute, mais moi je me souviens que Mitterrand, quand il était président, il y avait certaines... lors de certaines décisions, notamment le passage de la rigueur, il avait hésité jusqu'au bout. Quand il y a des décisions très difficiles à prendre, bon, enfin, ça me semble pas. Bon, bien sûr, il vient pas du sérail, il a pas été député. Bon, évidemment, ça joue, mais je suis pas sûr que ce soit son plus gros problème. Moi, il me semble que le plus gros problème, en fait, pour Macron, c'est comment finalement peut-il gouverner sans majorité absolue et sans 49-3. Parce que finalement...
Le 49-3 est devenu un gros mot.
Bien sûr. Alors que finalement, quand on regarde, le 49-3, il était utilisé 100 fois. Bon, c'est un outil législatif. Michel Rocard n'a pas laissé dans l'opinion l'image d'un dictateur. Il l'a pourtant utilisé 28 fois, comme le disait Bruno. Bon, aujourd'hui, ça ne passe plus. Depuis l'affaire El Khomri, en fait, le 49-3 est devenu le synonyme de la brutalité politique. Bon. Alors que finalement, c'était un instrument qui nous permettait une certaine efficacité et qui permettait d'éviter, l'instabilité gouvernementale. Bon. À partir du moment où il ne peut même plus utiliser ça, parce que finalement, il a quasiment donné raison aux détracteurs du 49-3. Lorsque Véran dit « on ne veut pas l'utiliser », je pense que c'était sans doute une erreur de stratégie. Il aurait mieux fait d'essayer de banaliser l'utilisation de cet outil constitutionnel plutôt que finalement donner raison à Mélenchon, qui dit depuis 10 ans que la Ve République doit être réformée en une Sixième République plus démocratique.
Et plus proche du peuple. Alors, en tous les cas, c'est vrai, ce 49-3, vous l'avez dit, son usage a immédiatement suscité une vague d'indignation dans le pays, avec des violences dans de nombreuses villes. Aujourd'hui même, encore, Rennes, il y a eu des blocages avec des interventions de la police. On sait que la permanence d'Éric Ciotti a été caillassée ce week-end à Nice. Donc, retour sur les violences de ce week-end avec Diane Schlinger, Claire Pin et Alexandre Lepinet.
La façade est éventrée. La permanence d'Éric Ciotti a été caillassée. Sur le mur, cette menace, la motion ou le pavé. Les manifestants mettent la pression sur leurs députés, quitte à camper encore et encore devant ces permanences. Nouvelle journée de mobilisation, de moindre ampleur mais plus spontanée, de Lille à Loche, avec une multiplication de petits rassemblements, d'actions coup de poing. Incursion dans ce centre commercial de Seine-Saint-Denis. Opération péage ouvert à Senlis et dans les Yvelines. Et quête pour les grévistes.
Merci de la générosité.
À Amiens, les manifestants laissent derrière eux ces messages sur la mairie et la cathédrale, des appels à se révolter. Et selon Philippe Martinez, le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Globalement, le mouvement de protestation se durcit, devient plus éparse, plus difficile à contrôler aussi. Depuis jeudi et le 49-3, 540 personnes ont été interpellées contre à peine quelques dizaines pendant les deux premiers mois de contestation. Cette semaine, une grande manifestation est prévue jeudi, mais les blocages continuent comme ici dans l'Isère. C'est l'une des 17 centrales hydroélectriques aux mains des grévistes. Conséquence des raffineries bloquées, l'essence commence à manquer dans les Bouches-du-Rhône. Les fils s'allongent devant les stations essence.
Essaye de faire circuler les gens parce qu'ils sont arrêtés sur l'autoroute, ça devient dangereux.
Beaucoup reprennent le travail demain et s'inquiètent.
Un peu comme tout le monde, je cours après le gasoil parce que demain on a une grosse journée de travail qui redémarre.
Il n'y a rien du tout, mais bon, ça fait une heure maintenant que je suis là à peu près, il n'y a rien.
Pour l'instant, il n'y a pas de pénurie au niveau national, mais 3 à 4% des stations manquent d'au moins un carburant.
Et dans les Bouches-du-Rhône, 25% des stations-service sont en rupture totale ou partielle. Bruno Cotresse, une des échos ce matin, le spectre de la radicalisation, c'est ce qui guette le pouvoir.
Récemment, on a donc publié cette enquête sur la confiance des Français dans la politique. Il n'y a même pas une semaine, on a publié ça, effectivement. On voit les tensions, l'anxiété sociale qui est profonde en France. Ça ne veut pas dire que les Français sont complètement dans la noirceur totale. Hein. La parenthèse Covid se ferme un petit peu sur le front du bonheur personnel. Mais alors, pour tout ce qui concerne la perception de l'espace public et la question en particulier des injustices, des inégalités sociales, des demandes sociales, c'est quand même très fort aujourd'hui dans le pays. Et on voit que ce gouffre, avec le sentiment d'un politique qui n'est pas à l'écoute, qui n'est pas empathique, qui est tourné que vers lui-même, hein. Deux tiers des Français disent que la démocratie ne fonctionne pas bien en France. 80% disent que les politiques ne se préoccupent pas de ce qu'on pense. Ben on voit qu'effectivement, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait un sentiment d'exaspération, voire de colère. Vous savez, quand on demande aux Français s'ils éprouvent de la colère par rapport à la situation d'aujourd'hui en politique française, sur une échelle de 0 à 10, la moyenne, c'est 7 aujourd'hui en France. Donc le thermomètre de la colère est assez élevé, il est à la hausse. L'exaspération, la même chose. Donc on voit que plusieurs éléments, effectivement, attestent qu'on n'est pas très étonné de voir les images de retour de certains gilets jaunes.
En même temps, ah oui, pour vous, c'est ce dont il s'agit, hein, le retour de mouvements type gilets jaunes. Hein. Voilà. D'ailleurs, avec effectivement des bretelles d'autoroute qui sont bloquées. En même temps, Jean-Michel Salvatore, est-ce que la bordélisation du pays, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, ne peut pas émousser le soutien des Français à ce mouvement? Par exemple, sondage sur Anne Hidalgo avec les poubelles, bah, 68% des Français sont mécontents contre. Enfin, accuse la maire de Paris, ou même on voit que sur la question de la grève chez les surveillants du bac, il y a une scission syndicale. Laurent Berger est contre, il dit non, il faut quand même que les étudiants puissent passer le bac. On voit que qui dit radicalisation dit risque d'effritement, non ?
Oui, mais moi il me semble que le mécontentement est trop fort. Ouais. Et quand on regarde, par exemple, quand on regarde ce que pensent les Français de la réforme des retraites, au début, ils étaient 65% à être contre. Aujourd'hui, ils sont 75%. Donc on voit bien qu'il y a une montée en puissance. Je pense que les Français peuvent aussi être un petit peu schizophrènes, c'est-à-dire être toujours contre la réforme des retraites, toujours pour la poursuite des actions pour obtenir le retrait. Et puis d'un autre côté, bah, s'émouvoir de ce qui se passe à l'Assemblée
nationale,
la zadisation de l'Assemblée nationale, les violences, éventuellement les éboueurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que les syndicats avaient promis de bloquer le pays et en fait ils n'y sont pas arrivés. Franchement, ils n'y sont pas arrivés.
Et donc jeudi prochain, vous attendez à ce qu'il y ait du monde ?
Eh ben on verra. On verra, ça va être le grand test, à l'un de plus, parce que c'est vrai que tous les jours on dit que c'est la journée cruciale, donc ça sera une journée cruciale parmi d'autres.
Parce que le mouvement était en train de décliner, là, alors on va voir si jeudi.
Le mouvement déclinait, bon, mais c'est vrai, donc je pense que les Français, ils peuvent être aussi assez contradictoires dans leur jugement, mais on voit bien quand même que l'exaspération est à son comble, et là, la question, c'est est-ce que ça se transforme en ressentiment ou est-ce que ça se transforme en embrasement ?
Nathalie Moret, il y a aussi la violence qui s'exerce contre les élus. C'est pas anodin, là, ce qui s'est passé avec la permanence d'Éric Ciotti qui a été caillassé ce week-end, la motion ou le pavé. Donc c'est une façon de lui forcer la main pour qu'il vote la motion de censure.
Et c'est pas le seul Éric Ciotti. Hein. Bon, certes, c'était assez emblématique puisque bon, c'était visible. Mais Agnès Evren, par exemple, qui est eurodéputée LR, a reçu des menaces de mort qu'elle a rendues publiques. Sur des députés Renaissance aussi, Brigitte Klinkert. Donc en Alsace, a reçu, il devait y avoir une plainte, hein, parce qu'effectivement, elle a été aussi intimidée. Donc il y en a plusieurs, un peu dans toutes les régions.
Qui ont envie de rendre leur tablier, du coup, d'ailleurs.
Non, parce que quand on est élu, je pense que on passe au-delà des menaces et qu'on est mu par l'intérêt commun. Donc non, mais en même temps, c'est quand même, des menaces de mort envers les élus, c'est quand même pas rien. Je veux dire, il y a quand même des choses qui sont graves. À Besançon, par exemple, ce week-end, on a vu, ça n'a rien à voir, mais quand même, on a vu des gens qui mettaient en scène le fait de brûler leur carte d'électeur. Donc certes, ils n'étaient pas en train de menacer des élus, mais brûler sa carte d'électeur, ça veut dire symboliquement aussi que la démocratie ne sert à rien. Donc c'est pour ça, c'est en cela que je fais un parallèle entre les deux événements. Et ça va, ce que vous disiez sur la confiance en politique. Je note aussi que dans les cortèges spontanés de ce week-end, on parlait pas seulement de la réforme des retraites, mais on parlait aussi de la vie chère, des salaires trop bas. Donc on voit bien qu'il est en train de s'agréger une colère. C'est plus seulement contre la réforme des retraites, mais c'est aussi contre tout le reste. Et c'est là qui est, à mon avis, le vrai le vrai risque pour le gouvernement. On a vu aussi des gens enfiler des gilets jaunes qui ne les portaient pas il y a 3 ans. Et on voit que le gilet jaune est devenu un symbole de la contestation. Donc je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais que le gouvernement surveille ça comme le lait sur le feu. Et ça va être très intéressant de voir ce qui se passe dans les 2-3 prochains jours.
D'ailleurs, les manifestations avaient lieu place de la Concorde. On se souvient que les gilets jaunes étaient allés place de la Concorde avec l'idée d'ailleurs de prendre l'Élysée. Puis place de la Concorde, symboliquement, c'est là où on a guillotiné Louis XVI.
De toute façon, dans notre vie politique, il y a régulièrement des évocations du passé qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement fortes. On a vu effectivement toute une symbolique révolutionnaire au moment de la crise des gilets jaunes, aller prendre le roi, le sortir de son palais et l'obliger à voir l'état de la population. On retrouve un épisode effectivement bien connu de la Révolution et du début de la Révolution. Effectivement, l'utilisation sur la permanence d'Éric Ciotti du mot pavé est extrêmement intéressante. Le pavé, c'est quand même un symbole
mai 68.
De mai 68. Mais là, on peut se demander si sous les pavés, c'est pas la plage, mais les ronds-points qui sont en train de réapparaître. Et effectivement, il y a dans le pays un sentiment presque d'anti-politique à un moment donné, c'est-à-dire un sentiment radical. Il n'y a pas que l'exécutif qui en prend pour son grade dans notre enquête sur la confiance politique. C'est l'ensemble de l'univers de la politique, les élus locaux.
Même les maires, en fait.
Voilà, les élus locaux qui restent toujours plus investis, beaucoup plus investis de confiance que les élus nationaux. Ben même eux, ils chutent de 9-10 points de confiance cette année. Donc on voit effectivement ce sentiment d'exaspération, peut-être avec des dimensions qui peuvent échapper d'une certaine manière au contrôle, avec le sentiment que le politique n'est plus du tout à l'écoute.
Et la violence s'invite jusqu'au sein du temple de la démocratie, à savoir l'Assemblée nationale. Nathalie Moret, vous étiez jeudi dernier, et je sais que vous m'en avez parlé, dans cette Assemblée nationale avec Elisabeth Borne, qui n'arrivait plus à parler tant sa voix était couverte par les huées des députés. Je vous propose justement qu'on revive cet instant avec une caméra, alors qui prend non pas le son des micros que nous, on a tranquillement sur France 3 l'après-midi, mais une caméra qui a suivi les échanges à l'Assemblée nationale. Vous allez voir, ça donne une toute autre ambiance. On écoute.
La parole est à Madame la Première Ministre.
Vous étiez à l'Assemblée jeudi dernier et la perception qu'on en a quand on y est totalement différente de celle quand on est devant sa télévision et qu'on suit les débats à l'Assemblée nationale. Racontez-nous.
Oui, parce que quand on est dans l'hémicycle, on n'a pas le son des micros, mais on a le vrai son. Et moi, j'ai vu plusieurs députés Renaissance qui m'ont dit après la séance qu'ils n'entendaient pas la voix de la Première ministre, qui était totalement couverte et qui était obligée de lire sur leurs lèvres. En plus, il y a la situation géographique qu'on n'a pas vraiment quand on regarde la télé. Quand on regarde la télévision, on voit la Première ministre qui est au milieu des députés. Or, en vrai, elle est devant les députés, mais elle est vraiment au fond. C'est-à-dire que les députés l'encerclent et elle est comme enfermée par les députés. Donc, en fait, il y a le son qui lui tombe sur elle. C'est d'une grande violence. Hein. Moi, c'est la première fois que je vois un chef de gouvernement, quel qu'il soit, conspué par une majorité de députés. Donc, c'est vrai que...
Je n'ai jamais connu un hémicycle où la haine prend autant le pas sur la raison. Déclaration d'Olivier Dussopt. On a vu Aurore Berger craquer physiquement, hein.
Oui.
Terminé en larmes.
Hein. Oui, non, c'était vraiment, vraiment très dur. Quand on est politique, on est là pour défendre des idées, pour argumenter, pour échanger, et pas pour se faire insulter. Donc c'est quand même un petit peu violent. J'ajoute que de la part des insoumis, c'est quelque chose qui est totalement assumé. Pour eux, leur but, et ils y arrivent d'ailleurs très bien, c'est que la violence et la colère qu'ils ressentent dans le pays soient inscrites et se voient dans l'hémicycle. Donc le monde a changé, on n'est plus... C'est vrai que l'hémicycle a toujours été le théâtre d'une certaine violence, d'invective, mais à ce point-là, non. Mais en même temps, on acte que le monde a changé et qu'aujourd'hui, les députés de 2023 ne sont pas ceux des années 50.
Bruno Renaud Cotrès en même temps, on se plaignait que l'Assemblée était trop des députés godillots et qu'elle ne ressemblait pas assez à la France qui bouillonnait. Bah là, l'Assemblée, elle est à l'image de la France.
Ouais, là, on y était. On y était carrément. Et cette scène restera une scène, je pense, très historique. On la visionnera dans des années. C'est un élément important qui s'est passé. Il y avait plusieurs éléments symboliques incroyables. D'abord, il faut se rappeler que le jour même, il y a aussi les syndicats qui sont à l'extérieur de l'Assemblée nationale, comme pour envoyer un message que la société civile, le peuple, est là, et renvoyant l'image du politique enfermé non seulement dans ses palais, mais dans ses certitudes. Et à l'intérieur du palais, à l'intérieur de l'Assemblée nationale en l'occurrence, là aussi, on voit effectivement un rappel par certaines forces politiques d'une incroyable force symbolique, la Marseillaise, un symbole du peuple, de la nation en armes, le peuple qui est lui aussi en armes, et donc une scène extrêmement chargée au plan symbolique. Et effectivement, vous le rappeliez, la France insoumise assume cette stratégie. Après tout, il s'appelle les Insoumis. Et donc, si on est un insoumis, d'une certaine manière, on est conduit à avoir une forme d'expression qui rappelle l'insoumission.
En même temps, Jean-Michel Salvatore, Elisabeth Borne s'est également plainte de l'hypocrisie qui règne au sein de l'Assemblée nationale. Si chacun votait selon sa conscience, a-t-elle dit, et en cohérence avec ses prises de position passées, non, nous n'en serions pas là. Et c'est vrai qu'on a tous été surpris de voir que Charles Amédée de Courson, qui symbolisait le centrisme et la maîtrise des comptes publics, est devenu, avec sa motion de censure, le fer de lance de l'opposition à cette réforme des retraites et qui veut faire tomber la première ministre. On a l'impression que tout le monde a un peu perdu sa boussole.
Bah oui, c'est un peu un centriste congénital qui veut faire tomber un gouvernement centriste. Donc c'est vrai qu'on perd un peu tous nos repères, d'autant que Charles Amédée de Courson, il a toujours été très à cheval sur l'équilibre des comptes publics, sur la restauration des déficits.
Et c'est lui qui est à l'origine,
c'est lui
qui porte la motion.
Il a expliqué que bon, bah voilà, il faut voter contre un gouvernement qui voulait faire une réforme qui a fait une réforme des retraites. Donc c'est vrai que tous les repères sont cassés. Mais c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé, c'est vraiment ce que dit Bruno. On a quand même un tiers des députés qui appartiennent à des partis extrêmes, d'une certaine façon, et c'est vrai que ça se voit. Et maintenant, la question, c'est de savoir si cette violence verbale qui s'est exprimée pendant tous les débats et la semaine dernière, est-ce que cette violence verbale va se transformer en violence politique dans le pays? C'est évidemment ça qui est en jeu.
Alors, comment la presse étrangère voit-elle la situation en France? En général, nos voisins sont souvent amusés par notre capacité à manifester dans les rues, mais cette fois, eh bien, ils semblent s'inquiéter de l'isolement d'Emmanuel Macron et de la fragilité de son pouvoir. Le point avec Maryse Burgot et nos correspondants à l'étranger.
Le super canon, la grosse Bertha, ce sont les mots utilisés par ce présentateur allemand pour parler du 49-3, un article qui, selon lui, permettrait de passer en force. Une illustration du grand intérêt que la presse étrangère porte à la situation politique en France, aux manifestations contre la réforme des retraites et à l'avenir d'Emmanuel Macron. Sa première ministre est d'ailleurs à la une du prestigieux New York Times. Selon le quotidien américain, Emmanuel Macron serait désormais affaibli et plus isolé. Même constat chez nos voisins anglais. Le Daily Telegraph le considère comme un canard boiteux qui ne pourrait plus gouverner et parle d'effondrement démocratique. La RAI italienne, comme beaucoup d'autres médias étrangers, était en direct sur la place de la Concorde et le présentateur n'y va pas par quatre chemins.
Direction la France où le président Macron force la main pour faire approuver le texte de loi sur les retraites, mais sans le vote de l'Assemblée.
Selon ce journal italien, Emmanuel Macron aurait défié l'Assemblée et le peuple. En Allemagne, le Frankfurter Zeitung estime que la méthode Macron a échoué. Et cette correspondante permanente à Paris de la chaîne ARD y voit une victoire pour Marine Le Pen.
Une chose est claire ce soir, Marine Le Pen veut prendre les commandes et en profiter.
Mais d'autres médias britanniques trouvent des circonstances atténuantes au président français. Selon la BBC, la France serait tout simplement impossible à réformer.
Jean-Michel Salvatore, c'est vrai qu'on a l'impression d'un changement de tonalité. D'habitude, il s'amuse, hein, de notre bordélisation du pays, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, là, ils s'en inquiètent.
Bah oui, parce que je pense qu'ils ne comprennent pas. Dans la plupart des pays dont on a parlé, la réforme des retraites, elle a fini par passer. Bon, pas forcément facilement, mais elle a fini par passer, que ce soit en Italie, en Grande-Bretagne, etc.,
oui,
en Allemagne.
65, 67.
Bon, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu le paysage, les autres pays sont passés entre 64, 65 ou même 67 ans. Et ce qu'ils voient, c'est que finalement, en France, même avec cette réforme qui finalement aboutit à donner aux Français des conditions qui sont peut-être les plus intéressantes d'Europe, même avec une réforme finalement assez soft, vue de l'étranger, ça ne passe pas. Donc c'est vrai qu'il y a un sentiment de curiosité autour de ça. Et puis le deuxième élément de curiosité, il touche à la personnalité d'Emmanuel Macron, qui est évidemment très, très atypique, qui est très jeune, qui a réussi un coup de force extraordinaire en 2017, donc qui suscite une certaine curiosité, mais Macron suscite des sentiments, si vous voulez, assez contradictoires. Il y a beaucoup de curiosité, mais il y a aussi à l'étranger une certaine admiration, parce qu'on voit bien quand même que grâce à lui, le pays tient, il y a une certaine crédibilité, notamment à l'étranger, à Bruxelles, etc. Et il incarne aussi un certain renouveau économique. Parce que même si on ne le dit pas, il faut quand même bien voir que depuis 10 ans, grâce à Macron et puis aussi grâce aux réformes qui ont été faites par Hollande et par Sarkozy, l'économie française se porte mieux. On est quasiment au plein emploi. Et ça, on le voit plus de loin que de près.
La France est redevenue numéro 1 en Europe pour les capitaux étrangers. Bruno Cotterêts, on a vu la chaîne allemande ARD s'inquiéter ou imaginer Marine Le Pen en 2027 à l'Élysée. Le Times aussi de Londres dit Marine Le Pen à l'Élysée en 2027. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui parle à nos partenaires européens, qui inquiète à Berlin notamment.
Oui, clairement, il faut toujours rappeler que 2027 est loin. Quand même. Donc il est très difficile à 4 ans d'écart de se projeter vers la présidentielle. Mais globalement, c'est vrai que si on prend les tendances de l'opinion, on voit que les opinions qui sont portées par le Rassemblement national en particulier sont plutôt en progression. En particulier, c'est illustré dans notre enquête sur la confiance politique, la demande de fermeture. Pas seulement le protectionnisme économique, mais surtout par rapport à la question de l'immigration. Donc ça, c'est assez soutenu dans l'opinion. Et donc on voit qu'effectivement, la stratégie de normalisation du Rassemblement national, la stratégie de Marine Le Pen pendant la présidentielle, c'est-à-dire au fond, parler de moins en moins d'immigration, parler de plus en plus de la vie de tous les jours, du pouvoir d'achat, des préoccupations des gens, est une stratégie qui, pour le moment, est pas mal payante pour elle, sans qu'on puisse non plus tirer des conclusions. Dans notre enquête, on a mesuré l'image du Rassemblement national, on l'a comparé à la France insoumise d'ailleurs, l'image du Rassemblement national, et on voit que sur les dimensions de proximité, de comprendre les intérêts de la France ou de comprendre les intérêts des catégories fragiles, des catégories populaires, elle dispose maintenant d'un solide socle d'image de ce point de vue-là. Par contre, reste la question, est-ce qu'elle inquiète? Elle continue d'inquiéter. Donc, elle a des marges de progression à franchir. Et la présidentielle de 2027 est encore loin. On ne connaît pas du tout l'offre. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Mais ouais, incontestablement, elle réussit plutôt cette séquence.
Nathalie Moret, voilà, dans les perdants, bon, on a parlé LR et le parti macroniste. Est-ce que Marine Le Pen a bénéficié de cette séquence? Elle précise qu'elle s'engage à revenir sur les 64 ans lors de la prochaine alternance. Sous-entendu, ce sera mon tour.
Oui, enfin, moi, je constate que les...
Sur les marchés, ils sont actifs, les...
Je constate que les députés du Rassemblement national sont très sereins en ce moment et qu'effectivement, ils constatent qu'ils sont de moins en moins seuls. À l'Assemblée nationale, les motions de censure vont être votées par d'autres... par d'autres voix que les leurs. Localement, les 88 députés sont très présents, ils sont partout, ils sont à toutes les fêtes locales, etc. Et ils font un terrain de normalisation absolument colossal. Aujourd'hui, on en est à construire des listes pour les prochaines élections municipales où ils seraient intégrés. En tous les cas, ils fonctionnent comme ça. Les LR, ils font des fiches en disant, voilà, tel maire, on peut le soutenir, tel maire, il sera compte, etc. Ils sont en train de mailler tout le territoire. Donc oui, c'est une bonne séquence pour le Rassemblement national qui travaille sur le long terme. Il ne faut pas oublier qu'il ne reste que 4 ans. Mais eux, ils sont extrêmement sereins. Et pour eux, tout se déploie comme ils avaient... imaginez.
Bruno Cotterêts, est-ce que, faisons un peu de fiction, mais Marine Le Pen en 2027 à l'Élysée, c'est un coup d'arrêt à Bruxelles, on voit ça avec effroi en disant c'est un coup d'arrêt à la construction européenne, ou est-ce qu'on se dit il peut y avoir un profil à la Giorgia Meloni qui est atlantiste et qui n'est pas anti-européenne.
Je pense que du côté de l'Union européenne, on est plutôt sur l'idée que l'Union européenne est une machine suffisamment forte, une construction mettant en politique suffisamment solide pour effectivement intégrer progressivement, et d'une certaine manière même, c'est presque une des vocations du projet politique de l'Union européenne, de créer de l'intégration et de la diversité qui est intégrée. C'est la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. Et l'Union européenne a déjà absorbé des dirigeants politiques qui étaient assez contre, au départ, l'Union européenne.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Donc, motion de censure, ce sera en direct sur France Info cet après-midi à 16h. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.